Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Commerce transfrontalier informel. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux au Mali? Nous allons parler de cette problématique au cours de ce débat et nos invités sont Salu Guiro, spécialiste du transport, Sekou Sangaré, expert en commerce et Baba Kida, expert en douane. Je rappelle que ce Grand Dialogue est un partenariat entre Studio Tamani et Mali Justice Project qui est un projet financé par l'USAID. Mesdames et messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Sekou Sangaré, pouvez-vous nous expliquer déjà c'est quoi le commerce transfrontalier informel?
Merci bien. Avant de parler du commerce transfrontalier informel, il faudrait que je le classe d'abord dans son cadre. Au Mali, le commerce par rapport à la territorialité comprend deux axes. L'axe intérieur, on appelle commerce intérieur, un commerce qui s'exerce à l'intérieur du pays, et le commerce extérieur qui concerne les échanges entre le Mali et d'autres pays. Et justement, c'est dans le cadre du commerce extérieur qu'on parlera du commerce transfrontalier. Commerce transfrontalier, il y a aussi deux volets. Il y a le volet légal, donc qui est conforme, qui se fait conformément aux règles et aux normes, et il y a l'autre aspect qui est l'informel, qui, comme son nom l'indique, déroge aux règles et aux normes en matière de commerce extérieur. C'est une vraie problématique au Mali, et pas seulement au Mali, mais dans tous les pays africains, c'est que ce commerce qui n'est pas légal joue un grand rôle dans le développement économique du Mali, parce que d'après certaines statistiques de la FAO, ce commerce occupe au moins 70% du commerce transfrontalier, donc de l'ensemble du commerce extérieur. Le commerce transfrontalier informel occupe au moins 70%. Et ce commerce porte essentiellement sur les produits, les échanges des produits locaux. Disons même que c'est un commerce de complémentarité dans les échanges. C'est un commerce qui s'exerce généralement entre deux zones frontalières. Mais aujourd'hui, on peut même sortir de ce cadre pour dire que c'est même entre continents. Parce qu'aujourd'hui, on voit des commerces qui se font entre Dubaï et le Mali, Chine et le Mali, et très souvent, ce n'est pas des opérateurs légaux qui le font. On le fait sous le couvert du commerce transfrontalier informel. Il est important, donc, dans le développement économique. Il est important pour l'apaisement social parce que aujourd'hui, c'est généralement les personnes vulnérables qui n'ont pas d'autres alternatives pour mener leurs activités, qui se tournent vers cette activité. C'est surtout les femmes et les enfants, et les jeunes plutôt. Les femmes occupent à peu près 70% des acteurs de ce secteur-là. Et nous disons aussi que ça aide, en tout cas, c'est un début pour le renforcement de l'intégration tant au plan commercial que au plan intégration des populations. Parce que ce commerce, comme je l'ai dit, ça se passe entre des zones frontalières et ces personnes, n'est-ce pas, à travers ces échanges, arrivent à renforcer leurs liens, pas seulement autour des échanges commerciaux, mais autour même des objectifs sociaux. Et il est important, il n'est pas légal, et c'est là tout le problème. Et aujourd'hui, l'importance évoquée tant au plan économique.
D'accord, on va parler des enjeux tout de suite. Maintenant, à vous, M. Sangaré. Quels sont les autres acteurs, pardon, M. Kida, les autres acteurs qui interviennent dans ce domaine au-delà des commerçants, des transporteurs et de la douane?
Bien sûr, au-delà de la douane, bon, la douane est un maillon essentiel de la chaîne logistique commerciale, donc intervient dans le cadre du commerce transfrontalier, ne serait-ce que pour la perception des droits et taxes aux cordons douaniers. Puisque on va en revenir certainement, les missions de la douane, ils sont très importantes en la matière, puisque ça sert d'alimenter le budget de l'État. Donc dans les commerces transfrontaliers, non seulement la douane va intervenir pour percevoir les droits et taxes douanes, ensuite pour voir si les marchandises qui sont importées sont conformes aux normes, si ces marchandises importées ne sont pas prohibées purement et simplement, si ces marchandises importées ont respecté la réglementation douanière en la matière. Donc ceci est très important. En plus de la douane, comme vous avez demandé, quels sont les autres intervenants, on peut nommer les services de la santé, qui sont là pour vérifier si les certificats phytosanitaires sont remplis. Il y a aussi les services de la police, de la gendarmerie pour les besoins de sécurité. Bref, l'ensemble des administrations concourent à travailler dans le cadre du commerce transfrontalier. Donc, vu l'impact positif de ce commerce sur l'économie du pays, donc moi, je dirais en info que c'est un commerce qui est légitime mais illégal, puisque mon collègue Sangaré vient de le dire, c'est un secret de professionnel pour dire que ça déroge aux règles de droit commun en matière de commerce, mais c'est important parce que ça permet de régler bon nombre de problèmes au niveau des pratiquants de ce genre d'activité. Et une étude a prouvé que c'était 70% de nos femmes qui exercent ce métier, et que leur impact, leur rapport est très important pour l'économie de la région, parce que ça permet non seulement de réduire le chômage, et ça permet d'éviter la précarité, et les revenus qui sont tirés sont réinvestis dans la famille, donc le phénomène de multiplicateur du budget, ça permet même d'assurer la sécurité alimentaire, parce que ceux qui ont... Si le budget de la famille va en s'accroissant, donc on mange mieux, même dans le domaine éducatif. Donc c'est un commerce qui a un impact important, que, à mon avis, qu'il faille encadrer, qu'il faille organiser.
Mais quand est-ce qu'on parle de commerce transfrontalier informel? Quand est-ce qu'il est informel?
Il est informel lorsque il n'a pas les documents appropriés pour exercer ce commerce. Donc la première des choses pour l'activité pour exercer une activité de commerce, ben mon collègue le dira, il faut être inscrit au registre de commerce. Et il faut être import-export pour amener une marchandise. Donc, puisque ces dispositions requises ne sont pas respectées, c'est pour qu'on dit que c'est un commerce informel qui déroge au principe d'importation légale.
D'accord. Monsieur Saliou Guiraud, quelle analyse faites-vous de cette situation?
Alors moi, je ne peux pas faire une analyse au-delà de ce que les experts ont dit. Je vais tout simplement dire que le projet Mali Justice s'intéresse à cette problématique du fait que quand on parle de justice, on parle de droit, on parle d'illégalité. Et la composante que je représente ici, qui est la composante... lutte contre la corruption le long des corridors routiers, a compris que les activités de ceux que nous devons protéger contre la corruption ne s'inscrivent pas dans la légalité, il peut y avoir des problèmes. C'est pour ça que nous avons ces experts, que nous utilisons pour former les acteurs, et nous cherchons ensemble également à trouver les moyens d'encadrer ce commerce informel qui est vital pour l'économie. Donc, il faut cerner tous les contours de la question et puis certainement, au bout du processus, se faire des recommandations qui permettent à tous ces acteurs-là de faire leur commerce sans être victimes de la corruption sur les corridors. Parce que c'est généralement à l'occasion des contrôles qu'il y a des actes de corruption. Et évidemment, quelqu'un qui déjà arrive à un contrôle et qui n'est pas en règle, c'est une victime facile. Nous voulons travailler à éviter cela. C'est pour ça que nous travaillons sur cette question.
Il semblerait qu'il y a certains même qui sont en règle, mais qui sont victimes également de cette corruption sur les corridors.
C'est exact. C'est exact. On nous l'a très souvent dit, malheureusement. On peut dire que ça, c'est, disons, le mauvais comportement de certains agents. Tous les agents ne sont pas des agents véreux. Malheureusement, si on demande aux commerçants qui fréquentent les axes routiers, ils auront tendance à dire qu'ils sont tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont bons, mais il y a peut-être maintenant beaucoup trop de brebis galeuses parmi ces personnes-là. Et le projet Malais Justice a mis en place un dispositif, en tout cas dans la région de Sikasso, qui est notre zone de concentration, pour que les personnes qui sont victimes de ces abus, étant en règle et qui sont victimes des abus, puissent déposer une plainte et puissent être aidées par les structures que nous avons aidées à mettre en place jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs droits. D'accord. Compromis.
Monsieur Sangaré, vous l'avez dit, c'est important, donc rentable. Mais pourquoi donc les acteurs ne veulent pas formaliser ce métier?
Écoutez, ils ne veulent pas, ce n'est pas tout à fait ça. En tout cas, la plupart de ces acteurs ignorent complètement la réglementation. Ils ne savent pas, parce qu'il ne faudrait pas oublier que ce n'est pas une pratique nouvelle. Vous savez que depuis avant les indépendances, ce genre d'échange existait. Et quand on est né dans une famille où on a trouvé des parents qui font ça, et on a l'impression qu'il s'agit seulement de prendre son sac et de traverser la frontière, qu'on est libre de le faire. C'est pourquoi justement Malais Justice nous demande, nous sollicite pour, un, essayer de leur faire comprendre la réglementation. Parce que c'est vrai, pour rendre justice, il faudrait que celui qu'on défend soit lui-même en règle. Et s'il ignore complètement la réglementation, ben, il sera toujours victime. Et même ce que mon collègue douanier a dit, les recettes, même pour qu'il y ait des recettes, il faudrait que ces gens-là soient en règle. Parce qu'une fois que vous n'êtes pas en règle, ça veut dire que tous les abus sont permis. Les opérateurs, vous l'avez dit, les opérateurs qui sont en règle, quand eux, ils sont victimes de tracasseries, il y a un recours juridique. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout en règle, le recours est un peu difficile. C'est pourquoi il est bon qu'il se familiarise avec la réglementation, pas seulement se former, mais qu'il se conforme à la réglementation. Une fois qu'il se conforme à la réglementation, ça peut faciliter beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est ceux qui sont très souvent dans ce maillon d'échange dans le commerce informel, c'est des gens qui sont surtout organisés, enfin, qui sont en règle vis-à-vis du commerce intérieur. Alors que le commerce extérieur, c'est tout autre chose. Et parce que pour le commerce, pour importer ou exporter, il y a des procédures. Il faut d'abord que vous soyez import-export, que vous ayez cette patente, que vous levez un titre d'exportation ou d'importation. C'est en ce moment que vous pouvez légalement vous présenter à la douane et que la douane peut traiter officiellement avec vous. Mais une fois que vous n'êtes pas dans ces conditions-là, et vous êtes à la merci de l'agent qui est à la frontière. Donc, on essaie de leur faire comprendre tout ça, que faire le commerce ne fait pas de vous un commerçant.
Justement, parlons de la réglementation. Est-ce que vous pouvez expliquer étape par étape les procédures qu'il faut suivre pour être commerçant?
Tout à fait. Pour être commerçant au Mali, la loi dit qu'il faut s'enregistrer, se faire enregistrer au registre du commerce. Et là, il y a eu beaucoup de simplifications pour permettre aux gens d'aller vers cette normalisation. L'acte de naissance, l'acte certificat de nationalité, certificat de résidence, casier judiciaire et acte de mariage pour les femmes. Et ce sont ces documents-là que vous cherchez et vous déposez ça au niveau du guichet unique. Hein, et le guichet unique se charge de remplir les autres formalités pour que, au finish, vous soyez enregistré au registre du commerce, que vous ayez un numéro statistique qu'on appelle le NINA. Et avec ces documents, vous pouvez aller aux impôts pour chercher le numéro d'immatriculation fiscale. Aujourd'hui, ça a été très très simplifié parce qu'avant, il fallait prendre chercher ces documents et faire tous ces services. Avant, ça pouvait prendre un mois, même plus. Mais aujourd'hui, en 3 jours, ce que la loi dit, hein, en 72 heures, vous devez pouvoir avoir tous ces documents-là.
Auprès d'un guichet unique.
Auprès d'un guichet unique.
Y a-t-il une somme à payer ?
Somme à payer, ça ne vaut pas 10 000 francs. Selon les textes, ça fait 8 600 francs à peu près.
Selon les textes, donc, souvent ?
Non, en principe, c'est comme ça. Mais j'ai dit pourquoi selon les textes ? Parce qu'au niveau des régions, on a vu quand on a fait les tours des régions, que souvent, ils sont obligés de passer chez le greffier. Et le greffier a un tarif qui est un peu différent du tarif appliqué par le guichet unique. Mais la différence n'est pas grande. Ils nous ont dit 10 000 francs, je crois. Avec 10 000 francs, maximum 15 000 francs, vous l'avez. Et je pense que ce n'est pas trop cher payé si on voit tous les déplacements qui sont évités. Donc ça, c'est pour le commerce intérieur. Maintenant, pour être export, pour être dans le commerce transfrontalier de façon légale, il faut en plus de cela prendre une patente import-export. Et maintenant, respecter les procédures. Voilà. Et c'est un peu ça la problématique parce que pour ces opérateurs-là qui sont dans le transfrontalier, souvent le chiffre d'affaires ne dépasse pas 300 000 francs. Hein? Et ils n'ont pas plus de 3 millions par an, très souvent. Alors qu'avec la patente import-export, tu peux aller jusqu'à 1 million seulement pour la patente. Et à la fin de l'année, tu dois payer aussi les impôts. Et pour revenir un peu à la simplification, toujours pour favoriser un peu la formalisation des commerçants du transfrontalier informel, c'est que même la fiscalité, on l'a beaucoup allégée. Aujourd'hui, ils ont des patentes, la contribution, ça va de 7 500 un peu plus, ça dépend de votre chiffre d'affaires. Mais il y a ça. Et il y a aussi l'impôt synthétique. Avant, l'impôt synthétique, c'était plusieurs impôts qu'on mettait, qu'on devait payer. Mais aujourd'hui, on a ramené 8 à 9 types d'impôts dans un seul paquet qu'on appelle l'impôt synthétique. Et l'impôt synthétique, il est accordé à des opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions. Donc, voici des facilités qui sont offertes aux opérateurs pour aller un peu vers la formalisation. Mais le grand problème, parce que je l'ai dit, ceux qui font le transfrontalier, il y a des dispositions, parce qu'il y a plusieurs administrations qui sont essentiellement deux administrations. Il y a la direction générale du commerce et de la concurrence, et puis il y a les amis douaniers. Souvent, si les textes de la douane accordent certaines facilités, il se trouve que les textes de la Direction générale du commerce font un blocage pour bénéficier de ces facilités. En d'autres termes, aujourd'hui, la douane, avec des marchandises qui ne dépassent pas 3 millions, il y a beaucoup de facilités qui sont accordées aux opérateurs. Tu n'as pas besoin d'avoir, et il va peut-être le préciser, et tu dois seulement présenter une intention d'exportation. Malheureusement, la Direction générale du commerce refuse de donner une intention d'exportation à quelqu'un qui n'est pas agréé import-export. Alors que la douane, à son niveau, ne demande pas cela. Si vous avez seulement un document d'exportation, la douane dédouane, remplit les formalités douanières sans problème. Donc, ça, c'est une facilité qui est offerte, mais encore une fois, il faut qu'on harmonise, n'est-ce pas, les dispositions législatives concernant les missions de ces deux services-là.
D'accord. Juste une petite précision. Vous avez dit que les femmes doivent fournir un acte de mariage. Est-ce qu'une femme célibataire peut...
Mais c'est quand vous êtes marié, parce que moi, étant mari d'une femme, si je ne veux pas que ma femme fasse du commerce, ça peut poser un problème.
Pourquoi l'homme également ne devrait pas fournir...
C'est ce que la loi dit.
D'accord.
C'est le code du mariage.
C'est géré par le code du mariage.
D'accord. Alors, à vous, Monsieur Kida, quelles sont les mesures prises au niveau de la douane par rapport au commerce transfrontalier?
Justement, ça dit qu'en fait, la douane elle-même est chargée de travailler avec le secteur formel. Mais je vous ai dit dans mon intervention que c'était un secteur légitime, mais illégal. Bon, l'administration des douanes a trouvé le moyen de dire de classer ces bureaux. Il y a les bureaux principaux, il y a les bureaux secondaires, il y a les postes gérants recettes. Donc, dans les bureaux secondaires, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts aux opérations qui ont une valeur de 3 millions de francs CFA. Donc, tant que ta marchandise a une valeur de 3 millions de francs CFA, elle peut être dédouanée dans un bureau secondaire. Et tu es dispensé des formalités du commerce extérieur, mais pas de l'intention. Ça veut dire que tu n'as pas de patente, tu n'as pas tout ce qu'il faut, la douane ne s'en occupe pas. Mais dès que tu as 3 millions et que tu as une intention d'importation, tu peux dédouaner au niveau de ce bureau. Par contre, aussi, dans les bureaux secondaires, comme dans les postes gérants recettes, quand tu as une marchandise qui a une valeur de 250 000 francs CFA, inférieure au regard de 250 000 francs CFA, il y a une procédure dite des perceptions directes. Là, tu es dispensé de tout, même pas d'intention. En ce moment, la douane, avec le biais d'une quittance délivrée par le Trésor, la douane peut percevoir les droits et taxes sur une quittance qu'il te donne. Ça, c'est de 0 à 250 000. Maintenant, de 250 000 à 3 millions, tu as la possibilité de dédouaner dans un bureau secondaire, mais avec une intention d'importation, puisque le décret 105 exige le Code de commerce au Mali, en ses articles 14 et 18, exige l'intention, quelle que soit la quantité et la qualité. Donc, c'est pourquoi, et la quantité et la valeur. C'est pourquoi le collègue des experts du commerce disait qu'il faut que les deux administrations puissent s'harmoniser et voir comment est-ce qu'on peut relire le décret 505 pour que cette difficulté qu'ont les commerçants au niveau des frontières, les commerçants du secteur informel puissent dédouaner à 3 millions. Donc, voilà en gros à peu près le mode de fonctionnement que ces mesures de facilitation que la douane accorde au niveau du secteur informel. Sinon, textuellement, organiquement, la douane travaille avec les imports-exports. Et qui dit commerçant imports-exports, ça veut dire que tu as enregistré le registre du commerce et tu as levé tes intentions d'importation. Mais pour gérer ces cas particuliers au niveau de la frontière, voilà les mesures de facilitation que l'administration des douanes a pu trouver.
Voilà. Mais selon vous, généralement, pourquoi les gens, les commerçants ont peur des douaniers? Parce que généralement, c'est ce qu'on entend dire, les douaniers vont nous fatiguer. Alors, est-ce que les douaniers fatiguent réellement?
Est-ce que M. Touré n'a pas peur du contrôleur fiscal? Généralement, quand on paye l'impôt, l'impôt les gens n'ont pas payé l'impôt, hein, d'une manière générale. Donc, c'est un service dont la première mission, c'est la perception des droits et taxes. Donc, c'est renflouer les caisses de l'État. Et déjà, je disais dans les formations qu'au 31 décembre 2017, l'année dernière, la douane a fait rentrer 585 milliards dans les caisses de l'État. Donc, ce qui veut dire beaucoup. Quand on paye l'impôt, généralement, les gens ont un peu peur, mais sinon, les douaniers sont très gentils.
D'accord. Monsieur Saliou Guiraud, vous êtes spécialiste du transport. Il semblerait également qu'il y a certains transporteurs qui posent problème parce que les commerçants peuvent charger les camions, par exemple, de marchandises. Après, les transporteurs vont y ajouter d'autres marchandises. Est-ce que cette situation également est devenue une difficulté?
Non. Le commerçant ne peut pas ajouter de marchandises.
Le transporteur.
Oui. La question, c'est... Il semble que les commerçants ajoutent d'autres marchandises.
Non, les transporteurs.
Les transporteurs ajoutent. Mm-hmm. Oui, c'est possible. C'est possible, mais bon, je vais dire que c'est marginal. c'est marginal et c'est pas. C'est généralement les transporteurs qu'on appelle aussi les transporteurs artisanaux, parce qu'ils ne savent pas tous les risques qu'ils encourent. L'expert en douane est là. Ça, c'est un gros danger quelquefois pour le transporteur, parce que ta marchandise charge ta marchandise à Abidjan et en cours de route, tu prends d'autres marchandises, tu n'as même pas vérifié ce qu'il y a là-dedans. Et si la douane découvre de la drogue, c'est ton camion qui s'en va. Donc ça, c'est très dangereux. Je vais dire que c'est marginal et c'est généralement vraiment peut-être quelques chauffeurs qui peuvent faire des choses comme ça. Et je crois que sur le corridor Dakar, c'est un gros problème. On doit avoir beaucoup de chauffeurs maliens en prison pour des choses de ce genre.
Alors, nous avons fait l'état des lieux. Parlons maintenant de solutions. Aujourd'hui, selon vous, quelles mesures faut-il prendre pour faire face à cette situation ?
À la problématique du commerce transfrontalier informel. Bon, alors, c'est vraiment mettre les deux administrations ensemble, douane et commerce, et pour voir ce qui est possible pour mieux encadrer ce commerce transfrontalier informel. Que mes collègues experts ont dit, très important, très sensible pour un pays pauvre comme le Mali. C'est pour la plupart des pays en développement, mais en parlant du Mali, il est très sensible. Et il s'agit, par exemple, de trouver la solution d'exonérer ou d'exempter, un commerce dont la valeur ne dépasse pas 3 millions, de l'exempter de la production, de l'intention d'importation, par exemple. Parce que la marchandise arrive à la frontière, elle va entrer, là je vais un peu taquiner mon ami expert en douane, la marchandise va entrer, mais seulement, elle ne va pas entrer tout à fait légalement. Parce que le douanier, bien entendu pas tous les douaniers, certains douaniers, vont bien donner un reçu à l'importateur. La marchandise va entrer, mais tout cet argent n'ira pas dans la caisse de l'État. Alors donc, pourquoi ne pas réglementer pour fermer cette porte-là qui fait qu'une partie de l'argent est divertie pour aller dans la poche du douanier et une partie aussi dans la poche du commerçant, parce que c'est un arrangement, pour que tout ça revienne dans la caisse de l'État. Mais ils sont mieux placés que moi pour faire les meilleures recommandations.
D'accord, M. Kida. Est-ce qu'il existe un cadre d'échange formel entre les différents acteurs de ce domaine ?
Bon, dans le cadre, je pense que oui, les administrations échangent à longueur de journée sur les problèmes hier, mais en fonction des faits ponctuels. Mais il serait mieux, comme vous avez proposé, qu'est-ce qu'il faut comme solution ? Enfin, en tant qu'expert, hein, c'est un point de vue. Je pense qu'il faut convoquer les États généraux du commerce. Et dans ces États généraux du commerce, en les convoquant, en ce moment, on parlera spécifiquement du commerce transfrontalier. Puisque c'est un commerce qui est transversal. Ça n'intéresse pas que la douane et le commerce, ça intéresse d'autres services, vous l'avez dit, dans la première intervention. Quand tout le monde va se retrouver autour d'une table, y compris les usagers eux-mêmes, ceux qui font même ce commerce, qui sont dans la réalité du problème, ensemble, quand ils évoqueront leur problème, l'administration est là pour les accompagner, les aider. Et compte tenu, je l'ai dit, de la positivité de ce commerce-là, ensemble, nous trouverons une solution qui puisse faire en sorte que ce commerce puisse bien marcher. Il faut convoquer, il faut mettre tout le monde autour d'une table.
Oui, les États généraux. Mais est-ce que les grandes rencontres ont toujours été une solution, puisqu'on voit de belles conclusions et également des textes ou lois qui sont adoptés, mais est-ce que ce n'est pas l'application surtout qui fait défaut ?
En ce moment, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Si on trouve les bonnes solutions, il faut les appliquer. Et il faut mettre les hommes qu'il faut à la place pour les appliquer. C'est tout.
Sur cette question, à les États généraux du commerce, il y en a eu en 91, et voilà, il va en parler.
Il a donné des bons résultats. Je pense qu'on peut le faire, parce que c'est d'ailleurs incontournable. C'est incontournable parce que, pour moi, c'est la seule voie qui pourra permettre au Mali. Parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la gestion du commerce extérieur aujourd'hui rentre dans un carcan mondial. C'est-à-dire qu'il y a l'Organisation mondiale du commerce qui, le Mali est membre de cette organisation, l'un des premiers membres d'ailleurs, et cette organisation a des règles. Et nos États ne doivent pas déroger à ces règles-là. Mais moi, je pense que ce problème de commerce transfrontalier informel est propre à tous les pays de l'Afrique, hein, pas seulement de l'Afrique, à tous les pays du monde. Et aujourd'hui, Mexique et États-Unis, les problèmes, ce n'est pas seulement le passage, la libre circulation des personnes, mais des biens aussi. Et c'est justement dans le cadre informel. Je pense aujourd'hui que nous devons voir, parce que personne n'ignore aujourd'hui l'importance et la place de cette activité dans le développement de nos pays. C'est une loi est faite pour prendre en compte les besoins des populations. Quand on pense que la loi ne répond pas aux attentes des populations par rapport à un secteur, je pense qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'on repose les problèmes dans son vrai cadre. C'est vrai, la concertation nationale elle est incontournable. Il faudrait aussi que cette concertation puisse remonter, que les résultats puissent remonter et puissent être aussi débattus avec tous les autres, parce que tous les autres pays ont les mêmes problèmes que nous, pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. La FAO ne fait que réfléchir sur ce problème, ne fait que réfléchir, a beaucoup écrit sur la problématique du commerce transfrontalier informel, et en mettant l'accent sur l'importance de cette activité sur la sécurité alimentaire même pour nos pays. Donc ça va même au-delà des transactions commerciales.
Voilà. Les États généraux, ça va peut-être prendre un peu de temps. Nous avons un cadre déjà prêt pour discuter de ça, un cadre qui rassemble les opérateurs économiques et les différentes administrations impliquées dans cette problématique-là. Il s'agit du cadre national de concertation sur la libre circulation des personnes et des biens, et c'est sous l'égide du Conseil national du patronat. Et déjà, justement, nous avons entamé ce processus, nous avons fait des réunions techniques auxquelles ont participé nos experts, et nous avons des recommandations bien précises pour aller dans le sens d'un plaidoyer rapide auprès du ministre du Commerce, du ministre de l'Économie et des Finances, tous les ministres qui sont concernés par cette question. C'est plus rapide, je crois, que les États généraux. Les États généraux pourront ensuite...
Pouvez-vous nous parler de certaines de ces recommandations ?
Recommandations, c'est par exemple cette exemption d'intention d'importation sur des marchandises dont la valeur ne dépasse pas 3 millions. Nous avons beaucoup de commerçants qui ont des transactions qui ne dépassent pas cela. Ce sera déjà un grand pas. Mais les États généraux pourront aller plus loin, mais déjà, nous, ces petits commerçants, on va leur trouver un cadre légal qui leur permettra d'échapper aux abus de certains agents.
Et qui pourra même permettre à l'État de sécuriser ses recettes.
Absolument.
Parce que si ces opérateurs, ces 70% de commerce transfrontalier arrivent à faire les opérations normalement, les recettes vont être collectées normalement et c'est l'État qui gagne.
Absolument.
Alors que pour le moment, ben, c'est une transaction selon la tête du client au niveau du cordon douanier. Mais si on trouve une solution pour vraiment formaliser la chose, ce qui tombe dans... ce n'est pas seulement le douanier, hein. Les policiers, le gendarme, même l'agent des eaux et forêts, on a vu sur le corridor, chacun prend sa part.
Même le garde.
Parce qu'on sait que ces gens-là sont dans l'illégalité totale, ils n'ont pas de recours possible. Mais une fois qu'on arrive à formaliser ça, c'est des milliards que l'État va gagner. C'est un peu ça aussi, ça permet de sécuriser les recettes de l'État.
Oui, je suis d'accord vraiment avec mon collègue qu'il faut sécuriser, il faut organiser ce secteur-là. Il faut faire en sorte que de l'informel, il passe au formel. C'est une tâche de longue haleine, mais il faut s'attaquer au problème. Et tous les pays du monde, comme le disait Sangaré, en réfléchissent et je pense qu'on peut le faire. Puisque au-delà du cordon douanier, même les impôts, les taxes intérieures peuvent être payées. Parce qu'aujourd'hui, il y a une collaboration très efficace entre l'administration des douanes et des impôts qui font qu'en temps réel, la Direction générale des impôts a connaissance des opérations qui se passent en douane. Donc si ce secteur dit informel aussi est connu, est formalisé, donc ça permettrait aussi bien au-delà du cordon douanier que même les taxes intérieures puissent être prélevées. Donc il y a un besoin urgent de l'organisation et il faut que nous y attaquons tout le monde et je pense que ça, la solution passe par là.
D'accord, vous l'avez dit tous les deux, le secteur informel occupe 70% du commerce transfrontalier et que 70% des acteurs également sont des femmes. Alors, est-ce que vous avez une idée de la somme que ça rapporte à l'État malien par an ?
C'est une colle que vous me faites. Honnêtement, je n'ai pas tiré ces statistiques puisque c'est difficile d'en avoir. Je ne veux pas. Non, je note cette question peut-être à la prochaine rencontre. Je pourrais vous dire.
De toute façon, il y a des marchandises qui entrent sur un simple reçu signé par le douanier. Alors, ça, c'est ni vu ni connu. Comment établir ce genre de statistiques ?
S'il n'y a pas de quittance.
Voilà.
Parce que les quittances sont délivrées quand c'est les recettes qui tombent dans les cagnottes de l'État. Mais quand moi, en tant que douanier, je dis vous payez 300 000 francs, et la personne verse 300 000 francs, je lui donne un petit reçu de 1 000 francs. L'essentiel pour la personne, c'est d'être libérée.
Voilà.
Hein? Il a payé 300 000. Est-ce que c'est les 300 000 vont dans les caisses de l'État ou bien ça va dans les poches de monsieur? Ce n'est pas son problème. L'essentiel est que elle et la personne puissent... continuer avec ces marchandises. Donc, aujourd'hui, on peut faire une estimation, mais même cette estimation, elle ne sera que chose comme ça, aléatoire, parce qu'on ne peut pas...
En fait, c'est un peu difficile, ça, puisque, comme il y a une obligation, la loi impose que le temps de dire douanier, dès que le fait générateur en douane sur le franchissement de la frontière, et dès que la marchandise dépasse la frontière, il y a deux obligations qui s'imposent. Une première obligation, c'est au transporteur. C'est de conduire la marchandise par la voie la plus directe au bureau de douane. Et la deuxième obligation, c'est à la douane qui doit dire « j'ai vu la marchandise par une opération dite prise en charge ». Donc, dès que la douane voit la marchandise, en ce moment, c'est un peu difficile que quelqu'un donne un reçu comme ça et s'en va. Mais peut-être que l'opération est faite, mais pas dans les règles de l'art. Voilà, là c'est d'accord. Ça, c'est possible. Mais là encore, c'est un problème d'homme qu'il faut chercher, matraquer et mettre les choses à leur point. Donc, dès que cette marchandise est rentrée en douane, c'est ça la difficulté maintenant. S'il y avait la dispense de 3 millions, puisque quelqu'un qui amène une marchandise dans un bureau secondaire, il n'a pas d'intention. La douane va percevoir ses droits de douane. Mais comment il va régler les défauts d'intention en faisant un contentieux, puisque la personne n'est pas en rapport avec les règles des douanes. Donc, ce principe-là qui va venir, cette dérogation, cette relecture du décret 505 que nous, espérons, nous suggérons, bon, peut-être permettra d'alléger les tâches et permettra en sorte qu'il y ait une traçabilité de cette opération transfrontalière.
D'accord.
Et M. Touré, je voudrais ajouter cela. Et vous avez parlé d'évaluer un peu... ce que ça rapporte. Et l'autre problème, l'autre question qu'on peut se poser, cette situation-là, combien ça fait perdre à l'État ? Parce que, on a dit que les 70% sont dans le commerce informel, mais les 70%, tous ne passent pas par le cordon douanier. Parce que à cause des tracasseries, ils passent par
La contrebande.
La contrebande.
Les raccourcis.
Oui. Il dévie les bureaux des douanes.
Il dévie. Mais si on met tout en règle, même cette contrebande-là, elle viendra s'ajouter, n'est-ce pas, aux activités normales. Donc, l'État, à travers ce carcan, ces tracasseries, l'État perd beaucoup. Tout ce qui passe par la contrebande, c'est important ce qui passe par la contrebande. L'État perd tout ça. Alors qu'en essayant de faciliter, de formaliser ces choses, cette contrebande encore viendra s'ajouter à ce qu'on arrive à percevoir aujourd'hui.
D'accord. Une des solutions, c'est la sensibilisation et la formation, vous l'avez dit. Le projet Mali Justice intervient dans ce domaine. Comment le projet Mali Justice organise-t-il ces formations et ces sensibilisations?
Avec des experts. Ils sont là, experts en commerce, experts en douane. Et je le répète encore, notre point de concentration, c'est la région de Sikasso. Donc nous organisons des ateliers de formation et nous identifions les commerçants qui sont dans ce domaine-là. On a déjà fait des formations à Sikasso, à Koutiala, à Kouri. Et le 28, on fera une formation à Bougouni. C'est bien le 28, hein, je ne me trompe pas. Une formation à Bougouni. Et s'il est nécessaire, on va les multiplier pour que le maximum de personnes soient sensibilisées et informées sur ces questions. Nous avons la promesse, en tout cas, de ceux qui ont été formés, qu'ils vont déjà formaliser leur commerce, c'est-à-dire être...
Dans le secteur formel,
avoir le registre du commerce. Mais il reste toujours la question donc, de l'intention exigée sur une marchandise de moins de 3 millions. Ça, j'espère que le plaidoyer va aboutir rapidement et qu'on pourra porter les amendements nécessaires sur la réglementation qui exige le respect de cette disposition.
Pourquoi le choix de Sikasso et pas une autre région?
Alors... C'est toujours une question qu'on nous pose, mais bon, c'est en amont de notre projet. Je suis arrivé, j'ai trouvé que le projet était là, on a décidé que ce sera Sikasso pour ses activités. Mais Mali Justice, ce n'est pas seulement, disons, la composante lutte contre la corruption le long des corridors routiers, c'est aussi une composante appui à la justice d'État. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. C'est également une deuxième composante, facilitation de l'accès à la justice, formelle ou informelle ou traditionnelle. Donc, ces deux composantes travaillent sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a que notre composante qui travaille sur la région de Sikasso. Qui sait, peut-être que les années à venir, ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Mais déjà, nous avons de bonnes coopérations avec d'autres projets, toujours financé par l'USAID, ça peut être d'autres projets, financés par d'autres bailleurs de fonds également, qui prennent exemple sur ce que nous faisons. Ça va arriver déjà à Mopti, où un projet va installer un bureau de plaidoyer citoyen pour donc recueillir les plaintes des usagers des corridors. Je vous avais dit qu'on avait ce dispositif à Sikasso. Nous avons une plateforme pour la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, composée uniquement d'opérateurs économiques, commerçants de céréales, de bétail, commerçants de divers, hommes et femmes. Et nous avons un bureau de plaidoyer citoyen à Sikasso, constitué de juristes et de femmes, de parajuristes de la CAFO, avec une antenne à Koutiala. Et ça s'occupe non seulement de ceux qui font le commerce, mais aussi de simples passagers. Récemment, mes collègues ne le savent pas, j'allais le leur dire, récemment à Zégoua, les passagers ont refusé de payer de l'argent à la police. Ils étaient en règle, on leur demandait de payer. C'était peut-être une douzaine de cars, ils ont tous refusé de payer. Et finalement, ils sont passés et j'ai appris que depuis le 12, c'est arrivé le 12, la nuit du 12 novembre au 13, que depuis ce jour, aucun passager ne paie de l'argent à Zégoua. Ça fait tache d'huile. Il faut que les gens connaissent leurs droits et qu'ils exigent justement que les agents respectent ces droits-là. Bien entendu, il faut qu'ils connaissent également leurs obligations. C'est pour ça que nous avons chez les experts avec nous.
D'accord. Ce qu'on peut retenir de ce grand dialogue, c'est que les trois invités proposent des états généraux du commerce, de la sensibilisation également, et aussi un peu plus d'autorité dans ce secteur. Alors, merci à nos trois invités, Saliou Guiro, spécialiste du transport, Sekou Sangaré, expert en commerce, et Baba Kida, expert en douane. Je rappelle encore que ce débat est un partenariat partenariat entre Studio Tamani et le projet Mali Justice financé par l'USAID. À la mise en onde, Mamadou Ouattara, régie vidéo assurée par Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Haloud Mouni.
Chenne Berry.